Un peu de derrière-fond. Vous vous souvenez que Dieu avait ramené son peuple d'Israël de la terre d'Égypte, pays d'Égypte. Il les a ramenés à la terre promise, n'est-ce pas ? À travers Moïse et puis finalement Josué. Et là, les enfants d'Israël ont commencé à occuper la terre promise, en chassant les ennemis, n'est-ce pas, les tribus, en prenant possession de la terre promise, qui signifie Christ. Alors, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous devons essayer de voir Christ. Toujours. Ok. Mais au fur et à mesure qu'ils occupaient la terre, l'ennemi œuvrait aussi. Donc, il y avait beaucoup de moments où les enfants d'Israël se sont détournés de Dieu. Et donc, Dieu a suscité des juges pour juger ses enfants. Donc, Samuel, Samson, n'est-ce pas, Jephthé, Gédéon, Déborah, etc. N'est-ce pas, il y avait des juges. Samuel était le dernier juge. Il était non seulement juge, il était prêtre et il était prophète. Et Samuel marque la transition entre la période des juges et la période des rois, n'est-ce pas? Peut-être que nous connaissons un peu l'histoire de Samuel. Comment, n'est-ce pas, sa mère Anne l'a dédié, n'est-ce pas, à l'Éternel. Et Samuel a vécu, il a grandi dans le temple, enfin dans le tabernacle, n'est-ce pas, avec sous le perfectionnement de Élie, qui était prêtre à l'époque. Et Samuel a été appelé, Dieu a parlé à Samuel. Trois fois, Samuel pensait que c'était Élie. Finalement, Élie s'est rendu compte que c'était Dieu qui parlait à l'enfant. Donc, il a dit à Samuel, rentre, et la prochaine fois que tu entends la voix, réponds, quoi ? Parle au Seigneur, car ton serviteur t'écoute, c'est ça. Donc, Samuel a été appelé, Dieu lui a parlé, il connaissait l'Éternel. Il avait un contact direct avec l'Éternel. Et c'est Samuel qui portait les enfants d'Israël, n'est-ce pas, comme les prêtres, les hauts sacrificateurs dans l'Ancien Testament avaient, et on a vu ça l'année passée, n'est-ce pas, oui, avaient les 12 tribus sur sa poitrine, n'est-ce pas, ils connaissaient les enfants d'Israël, ils connaissaient les frères et les sœurs, ils connaissaient les saints, ils pouvaient même les lire. Et ils les ramenaient devant Dieu, n'est-ce pas, pour chercher Dieu, chercher la direction de Dieu concernant son peuple. Et Dieu lui parlait à travers, le Urim et le Thummim, n'est-ce pas, l'Urim et le Thummim, là, des pierres précieuses qui s'allumait apparemment et donnait un peu la direction du Seigneur. N'est-ce pas? Donc, quand, par exemple, après que les enfants d'Israël avaient été défaits à Haï dans une bataille, ils ont perdu la bataille et tout le monde était
bouleversé. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur a trouvé le coupable, celui qui,
n'est-ce pas, Achan, qui avait volé,
pris la chose maudite, n'est-ce pas? Mais comment?
C'était, encore une fois, par le Urim et le Thummim.
Dieu a parlé, Dieu a, n'est-ce pas, a signalé ce qui était responsable.
Donc, Samuel, de cette manière, il connaissait les enfants d'Israël, il les jugeait, il s'occupait d'eux, il les aimait et il les portait. Mais ils devenaient vieux. Et malheureusement, ses enfants, ses fils, ne suivaient pas le Seigneur comme son père. Et les enfants d'Israël se sont rendus compte de ça. Alors, ils se sont approchés de Samuel et ils ont dit à Samuel, écoute, tu guéris. Ah. Et tes fils ne te suivent pas. Alors, nous voulons un roi pour nous gouverner, comme les autres nations. Et Samuel était bouleversé. Alors il a crié à l'Éternel toute la nuit. Et Dieu lui a dit, pourquoi tu pleures? C'est pas eux, c'est pas toi qui rejette, mais c'est moi qui le rejette. N'est-ce pas? Samuel avait raison d'une certaine façon, n'est-ce pas? C'est lui qui s'était occupé des enfants d'Israël. Maintenant, dans sa vieillesse, les enfants d'Israël veulent quelqu'un pour les gouverner. Si vous étiez Samuel, vous ressentiriez, n'est-ce pas, la même chose. C'est pas facile. Mais Dieu lui a dit, ils ne t'ont pas rejeté, ils m'ont rejeté. Écoute leur voix et donne-leur la voix. Donc, ça c'était le début d'un nouvel âge. L'âge de la royauté. L'âge des rois. Dieu a tourné de l'âge des prophètes maintenant à l'âge des rois. Et Saül était le roi, n'est-ce pas? Alors donc, ça nous amène à la vie de Saül. Alors, Dieu est très souverain. Il s'occupe de tout. Il s'occupe de son Église. Mais quand les enfants de Dieu veulent quelque chose, n'est-ce pas? Par exemple, dans ce cas, ils voulaient un roi. Dieu ne leur a pas refusé. Il leur a donné ce qu'ils voulaient. Pourquoi? Et ça, c'est la question. Pour les former, pour les perfectionner. Même quand Samuel leur a dit, voilà le roi, vous voulez un roi? Voilà ce que le roi va vous faire. Voilà ce qu'il va faire. Il va vous arracher vos enfants, votre fille, vos filles, vos fils deviendront esclaves. Le roi que vous voulez va s'enrichir aux dépens de vous. Il va prospérer, il va devenir riche et célèbre. Et vous allez devenir de plus en plus pauvre. Vous allez perdre. Mais ils ont dit, non, nous voulons un roi. Et donc Dieu les a écoutés. Dieu nous écoute. Quand nous voulons quelque chose, souvent, nous l'aurons. Parce que, pourquoi? Parce que
Nous sommes plus forts que Dieu.
Ah, oui, c'est vrai.
Non, Dieu est plus fort que nous.
Oui.
Doctrinalement, oui. Mais, selon notre expérience, nous savons vaincre Dieu. Nous savons dompter Dieu.
Comment ? Par notre vie.
Alors, donc, Saül se présente. Saül, c'est la réponse de Dieu. La réponse de Dieu à une demande de la part de la vie d'âme. La vie forte de l'homme. Qui veut un homme, quelque chose d'autre que Dieu, pour régner sur nous. Nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous. Non, nous proclamons Dieu soit notre roi, mais quand il s'agit de Dieu, n'est-ce pas, que Dieu soit notre roi en réalité, est-ce que nous sommes prêts? Parce que si Dieu est roi, nous devons le connaître. Nous devons le chercher. Le peuple, qu'est-ce que le peuple a dit? Le peuple a dit, nous voulons un roi pour nous dire quoi faire. Un roi qui va nous dire ce qu'il faut faire. Comment faire les batailles. N'est-ce pas? Nous voulons être dirigés. Ça, c'est la vie d'âme. Ça, c'est comment nous vivons notre vie, même la vie chrétienne. Dis-moi ce qu'il faut faire. Dis-moi comment le faire. Et nous substituons, n'est-ce pas, les règles, la vie d'âme, notre volonté pour Dieu. Alors, même avec la Bible, qui est de Dieu, qui vient de Dieu, n'est-ce pas? Nous substituons notre propre vie en lisant la Bible pour faire que la Bible entende ce que nous voulons que ça entende pour nous justifier. La Bible, au lieu d'être roi, n'est-ce pas? Au lieu que Dieu soit roi, nous devenons roi en lisant la Bible. Donc, le peuple n'a pas rejeté Dieu selon leurs yeux. Ils diraient, nous on n'a pas rejeté Dieu. On n'a pas. On a Dieu. On n'a jamais dit que qu'on n'a pas qu'on veut pas Dieu. Mais tout ce qu'on a dit, c'est qu'on veut un roi pour nous gouverner. Non, mais aux yeux de Dieu, il avait rejeté. En choisissant un substitut, quelque chose, quelqu'un pour remplacer Dieu. Donc, ça c'est le début de la vie de Saül. Ok? Alors, Saül est un homme. Nous allons lire son histoire, son début. Comment est-ce que Saül a répondu à Dieu ou à l'arrangement de Dieu? Comment est-ce qu'il a répondu à la charge que Dieu lui avait donnée? Ça va être très très pertinent à notre vie de l'Église. Ok. Donc, on va commencer avec le verset 9, avec le chapitre 9 de 1 Samuel. Ok, donc 1 Samuel. Chapitre 9. Ok, il y a 27 versets, on va lire tout le chapitre. Donc j'espère que au cours de cette semaine. On va lire plusieurs chapitres chaque fois. On aura de la communion, des questions, Je veux que ça soit vraiment quelque chose qui nous touche, n'est-ce pas, qui nous applique. Pas seulement une bonne histoire, pas seulement de belles choses à dire, mais vraiment quelque chose qui puisse nous toucher. Toucher notre vie de l'Église. Ok, donc comment est-ce qu'on va faire? Tous ceux qui ont... Ok, on peut lire peut-être... deux versets chacun ou un verset chacun?
Un
verset chacun, parce que nous sommes assez nombreux. Ok.
1 Samuel, chapitre 9, le verset 1.
Amen.
Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat, fils de Abiach, fils d'un Benjaminite. D'un Benjamite.
Amen.
C'était un homme fort et vaillant.
Amen.
Amen.
C'était une grande tribu ou une petite tribu? Petite tribu. C'était la plus petite de toutes les tribus. Même plus tard, après la division du royaume, le royaume en est devenu deux. Le royaume d'Israël dans le nord et le royaume de Juda dans le sud. Enfin, c'était Juda et Benjamin. Les deux, dans le sud, et les dix, dans le nord. Mais quand la Bible parle du royaume du sud, c'est pas le royaume de Juda et de Benjamin, mais seulement le royaume de Juda. Donc, Benjamin était presque même amalgamé, avalé, n'est-ce pas, disparu. Même plus tard, faisant partie de Juda. Deuxième question. De quelle tribu Christ est-il venu?
Juda.
Voilà. Alors, si Dieu savait ça, n'est-ce pas? Parce que Dieu avec Jacob. Okay. Dans la Genèse, de la Genèse, Jacob, avant de mourir, a béni ses 12 fils. N'est-ce pas, toutes les bénédictions? La bénédiction de Juda, là, il y a la prophétie.
Amen.
N'est-ce pas? Oui. Quoi? Que
jusqu'à ce que le silo vienne.
Oui.
Le spectre ne se loignera pas.
C'est ça. Donc, oui, on va dire
Genèse
49. Oui, la Genèse 49.
Verset 8.
Oui, verset 8.
Judas, oui. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis.
Amen.
Les fils de ton père se prosterneront devant toi.
Amen. Amen.
Judas est un jeune lion.
Amen.
Tu reviens du canal, mon fils.
Amen.
Il ploie les genoux, il se couche comme un lion,
Amen.
Comme une lionne.
Amen.
Tu le feras lever.
Amen.
Le sceptre ne s'éloignera point de Judas,
Amen.
Ni le bâton souverain dans ses pieds,
Amen.
Jusqu'à ce que vienne le Shiloh,
Amen.
Et que le peuple lui obéisse.
Amen. Amen. Amen.
Onze aussi.
Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau.
Amen.
Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait.
Amen. Amen.
Bon, intéressant.
Ok.
Donc, Jacob, parce qu'effectivement, c'était pas seulement une bénédiction. C'était pas une bénédiction matérielle, physique, mais c'était une prophétie spirituelle,
Amen.
Une réalité, n'est-ce pas, qui se passerait avec l'arrivée de Jésus-Christ,
Amen.
Qui, n'est-ce pas, viendrait de la tribu de Judas. Donc, le royaume de Dieu, de Christ, c'est le sceptre de Judas. Et jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc, il devrait y avoir un roi, n'est-ce pas, Jésus-Christ de la tribu de Judas. Mais ici, Saül ne vient pas de la tribu de Judas. Il vient de la tribu de Benjamin. Alors, que Dieu faisait-il? Est-ce qu'il a fait une faute? Il a fait une erreur de choix. Il a choisi quelqu'un de Benjamin. Ce n'était pas quelqu'un de Judas. Pourquoi? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas commencé avec quelqu'un de Judas? Parce qu'il voulait établir la ligne, n'est-ce pas, de... la ligne ancestrale, n'est-ce pas, là d'où viendraient tous les rois de Juda. Mais il a commencé avec Benjamin, Saül. Bon, ça veut dire que il y a deux raisons, au moins. D'abord, quand Dieu nous appelle, l'appel de Dieu est ouvert et Dieu peut appeler n'importe qui. Il n'est pas limité.
Amen.
Il ne se limite pas. Donc, Saül représente d'une certaine manière tout le monde. Le plus petit. Parce que Benjamin était la plus petite tribu. Le plus petit, le plus inconnu, peut être appelé par Dieu.
Amen.
Peut avoir l'occasion de connaître Dieu.
Amen.
Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Saül n'était pas, il ne venait pas de la ligne correct, mais Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé parce que l'élection de Dieu, n'est-ce pas, comme Paul le dit, est irrévocable. Dieu choisit ceux qui veulent choisir. Avec Dieu, son choix n'est pas selon notre mérite, nos concepts, notre manière de voir les choses. Selon nous, n'est-ce pas, Dieu devrait choisir quelqu'un selon même ses propres contraintes, ses propres voies. Mais ici, apparemment, Dieu brise même, il va contre. Parce que si Saül devenait un bon roi, supposons, c'est pas ça, c'est la
N'est-ce pas? On se demande, moi je me demande, si Samuel n'avait pas échoué, Saül n'avait pas échoué, n'est-ce pas?
Dieu ne serait-il pas
dans une situation un peu
compromettante, n'est-ce pas? Bon, Dieu est souverain.
Encore une fois, Dieu sait ce qu'il fait.
Mais, donc, savait-il? Oui, il le savait. Mais, l'opportunité était là pour Saül.
Ça veut dire que
Amen.
L'opportunité était là pour tout le monde.
Amen.
Tous, même le plus petit.
Le plus insignifiant, n'est-ce pas, insignificatif, peut être appelé par Dieu, peut connaître Dieu.
Dieu ne respecte personne.
Il ne favorise personne. Dieu ne favorise personne, n'est-ce pas?
Bon, numéro 1.
Numéro 2. Et ça, c'est après le fait.
Vous comprenez?
Maintenant, nous lisons l'histoire de Saül et nous comprenons un peu ce qui est arrivé. Dieu veut nous montrer,
numéro 2, que
pour avoir
la ligne de Christ, pour avoir,
pour que Christ puisse sortir, puisse naître même de nous, autrement dit, pour que Christ puisse être expérimenté par nous.
Donc, naître de nous, naître en nous, n'est-ce pas? Pas seulement physiquement, mais spirituellement, dans notre expérience,
nous devons expérimenter Christ. Pour que ça arrive, il faut passer par un processus. Et donc, tout ce qui n'est pas de Christ doit être exposé
pour arriver à Christ.
Amen.
Donc, Saül précède David. Benjamin précède Judas.
Amen.
Bon, il faut d'abord Saül pour avoir David.
Amen.
Il faut la vie de Saül pour avoir la vie de David.
En fait, la vie de Saül, comme nous le verrons plus tard, la vie de Saül et la vie de David ne sont pas... Oui, ce sont deux personnages. Mais dans notre expérience, c'est...
Oui, une vie que nous vivons, nous avons. Nous avons la vie de Saül
et en même temps, si nous avons cru au Seigneur, nous avons la vie de David.
Donc, il faut la vie de Saül pour arriver à la vie de David. Il faut le Benjamin, la tribu de Benjamin, pour arriver à la tribu de Judas. N'est-ce pas? Les deux sont très proches. Judas, comme j'ai dit avant, Benjamin et Judas faisaient partie du même royaume, le royaume du Sud.
Mais Judas à Benjamin est éventuellement amalgamé en Judas.
N'est-ce pas? Pour que
Judas reste. Pour que Christ vienne de Judas seul,
pas de Benjamin.
Benjamin, cette partie de Benjamin doit disparaître pour que Christ puisse naître.
Donc, intéressant.
Amen.
Est-ce que ça va?
Amen. C'est pas...
Oui.
Okay. Ok. Ok, troisième question.
Mais ce sont des questions aussi. Troisième question. Comment est-ce que...
Que faisait Saül quand
Dieu l'a cherché ou l'a appelé? Qu'est-ce qu'il faisait? Dans le chapitre 9. Qu'est-ce que son père lui a demandé de faire?
De chercher
les ânesses de son père.
Les ânesses de son père. Ok, chercher les ânesses de son père. Bon,
Combien de jours a-t-il passé? Au moins. 3 jours, c'est ça, 3 jours. Ça, c'est un long, une longue période de temps. Cherchez, les frères sont allés à... comment s'appelle la ville?
Korogo.
Korogo. Korogo, c'est ça. Korogo. Korogo. 600 kilomètres, à peu presque. 9 heures de route, n'est-ce pas? En voiture. Mais, à chameau, parce que, probablement, n'est-ce pas, à chameau, marcher trois jours, c'était un long voyage, fatigant, n'est-ce pas, à la quête de quelque chose. Est-ce qu'ils les ont trouvés? Non.
Non.
Oui, les ânes se sont retrouvés. Mais est-ce que Saül, il ne les a pas retrouvés? Qu'est-ce que ça signifie? Bon. Si vous lisez... Ok, d'abord. Dans la Bible, que signifie l'âne ou l'ânesse? L'ânesse, c'est une créature qui est connue pour...
Têtu.
Ok. Oui, c'est vrai. Ok, oui. Têtu, oui. Très têtu. Il a sa propre volonté, comme l'ânesse de Balaam. Mais là, c'était favorable. Pour corriger la folie du prophète. Donc, ça c'est... Il faut quand même une certaine... l'entêtement, n'est-ce pas, peut être une vertu. Bon, mais c'est vrai. Têtu. OK? Quoi d'autre? Oui?
Moyen de déplacement.
OK? Moyen de déplacement. C'est ça. Déplacement de quoi? Normalement...
Porter des charges.
Oui, des charges. Des fardeaux assez lourds. Mm-hmm. Ah, les ânes sont capables de porter de fardeaux lourds, n'est-ce pas? Dans la Bible, quoi d'autre? Très intéressant. Ok, on va lire. Un verset dans Exode. Exode, chapitre 13. Il y a quelque chose qui arrive. Exode, chapitre 13, versets 12 et 13. Quelqu'un peut les lire. Ouais.
Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né.
Exode. 13, verset 12 et 13.
C'est
oui, c'est ça.
Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né.
Amen.
Même tout premier-né des animaux que tu pourras. Le mâle appartient à l'Éternel.
Amen.
Au verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né. Tout premier-né de l'âme. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuit. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils.
Amen. Amen. Voyez? Merci. Oui. Ok. Ça dit quoi? Tout premier-né des animaux, n'est-ce pas? Des mâles appartenaient à l'Éternel. Donc, un mâle, n'est-ce pas? Bon, mais si le premier-né était de l'âne, à ce moment-là, tu ne pouvais pas consacrer l'âne à l'Éternel sans que quelque chose arrive.
il fallait soit racheter l'âme avec un agneau, autrement dit, il fallait tuer l'agneau pour que l'âme puisse être acceptée par l'Éternel, n'est-ce pas, comme un rachat. Si tu ne faisais pas ça, il ne restait qu'à briser la nuque de l'âne. Alors, l'âne était digne d'une seule chose, et c'était la mort. La mort, ou bien la mort. Mais pour que l'âne puisse vivre, il fallait qu'il soit racheté par le sacrifice d'un agneau. Donc, aux yeux de Dieu, l'âne ou l'ânesse n'est bon que pour une chose, et ça c'est la mort. On ne peut pas offrir l'âne à Dieu. Mais le problème c'est que l'âne est très utile. On ne peut pas s'en servir, on ne peut pas s'en passer. C'est, sans l'âne, qui va porter les fardeaux? Sans l'âne, qui va? Comment est-ce qu'on va transporter, se déplacer? L'âne était crucial, surtout dans la vie des enfants d'Israël. Les fardeaux, les charges, qui va les porter? Mais le principe, c'est l'âne doit mourir. Donc, Jacob, dans la prophétie de Jacob, on a lu des versets, n'est-ce pas, la Genèse, chapitre 49, verset 11. Jacob continue concernant Judas. Il parle de Judas. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il dit, il fait quoi Judas? Judas attache à la vigne son âme. Et au meilleur cep, le petit de son ânesse. Il a dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins sur son manteau. Donc, ici, dans la prophétie de Jacob, l'âne n'est plus un animal de fardeau, de charge. Mais maintenant, oui, l'âne est... Il est attaché. Oui, il est mort. Il est... Son utilité, sa capacité a été enlevée. Il est attaché à la vigne. N'est-ce pas? Et au meilleur cep. Donc, il a perdu sa fonction. Il n'est plus occupé. Il est sans boulot. Il est au chômage. Il est chômeur. Il n'a rien à faire. Il a tout perdu. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il peut faire, c'est d'être attaché à la vigne, attaché au meilleur cercle. Souvenez-vous des deux ânesses dans le Nouveau Testament. Que le Seigneur, n'est-ce pas, il a envoyé ses disciples de les détacher. Mais ils étaient attachés, n'est-ce pas? Attachés. Donc, pour être détaché, il fallait qu'ils soient attachés. C'est-à-dire, ils étaient là, n'est-ce pas, sans fonction, attendant que le Seigneur arrive pour les détacher. Donc, Saül représente le fait qu'il, et ça c'est spirituellement parlant, n'est-ce pas, représente l'âne, l'ânesse qui va faire quelque chose pour Dieu sans Dieu, essayant de porter quelque chose, un fardeau, une charge, sans être racheté,
sans être brisé, sans que la nuque ne soit brisée. Ceci ne pourra jamais plaire à Dieu. Le principe de Dieu est que, avant que l'homme puisse faire quelque chose pour Dieu, Dieu doit le mettre à mort. Il doit le briser. Pour que tout ce qui sort puisse être Dieu lui-même.
Amen.
Dieu veut un vase.
Amen.
Il veut des vases. Pas des ouvriers. Pas des connaisseurs de la Bible. Pas de bons discuteurs de la Bible. Pas de bons raisonneurs. N'est-ce pas? Qui peuvent discerner, qui peuvent distinguer le bien et le mal, qui peuvent nous dire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Non, il y en a beaucoup. Beaucoup d'ouvriers, beaucoup de gens qui, sincèrement, n'est-ce pas, sincèrement, pensent qu'ils font une œuvre pour Dieu, qu'ils servent Dieu en essayant d'éduquer les enfants de Dieu, n'est-ce pas, sans être brisé, sans connaître l'œuvre de Dieu en eux-mêmes. Et c'est ça le grand problème. Alors, Saül a commencé, n'est-ce pas, son voyage, son chemin, en faisant ça, c'est pas pour nous reprocher. Reprocher Saül, non. Mais nous pouvons voir des leçons spirituelles ici. Les ânesses, la cherche, la quête des ânesses, il ne les a pas trouvées. Finalement, elles se sont retrouvées. Mais c'est Dieu, n'est-ce pas, qui a intervenu. Saül, en lui-même, ne pouvait pas les trouver. Donc, Dieu enseigné, n'est-ce pas, nous enseigne, si nous voulons œuvrer pour Dieu, si nous voulons servir Dieu, nous avons besoin d'être brisés. Notre nuque a besoin d'être brisée. Il faut une mort. Il faut une mort. En nous-mêmes, nous ne pouvons. Tout ce que nous pouvons faire, c'est les efforts d'une âme, c'est tout. Nous penserons que nous serons utiles, que nous sommes utiles, que nous faisons de bonnes choses, mais nous ne connaissons pas le Seigneur lui-même. Et donc, Saül, Dieu a commencé à, n'est-ce pas, il a mis en œuvre son œuvre sur Saül, justement avec cette expérience, pour montrer à Saül ce que tu as commencé à faire, tu n'arrives pas à réussir. Tu as besoin de quelqu'un. Alors, qui était le premier, la première personne pour ramener Saül dans le bon sens? Son serviteur. C'est ça, n'est-ce pas? Son serviteur. Donc, le serviteur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Verset 6, n'est-ce pas? Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Alors, quand nous cherchons, n'est-ce pas, même à servir le Seigneur, à faire quelque chose, il y a un serviteur, il y a un frère, une sœur, que le Seigneur va placer à côté de nous, pour nous dire, arrête un peu, n'est-ce pas, on a besoin du Seigneur, on a même besoin d'un homme de Dieu, quelqu'un qui connaît le Seigneur.
Amen.
Donc, oui,
C'est pas trop profond, n'est-ce pas?
Mais la vie chrétienne est très simple, d'une certaine façon. Comment est-ce que je peux connaître le Seigneur?
J'ai besoin des frères.
J'ai besoin d'un frère.
J'ai besoin
d'un frère ou d'une sœur qui connaît Dieu. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est quoi? C'est un homme qui est avec Dieu.
Qui est en contact avec Dieu.
Qui est en communion avec Dieu et qui connaît
Dieu lui-même.
Amen.
Il est
de cette région-là. Comme un homme d'Abidjan. Vous êtes, n'est-ce pas? Vous êtes des hommes d'Abidjan, n'est-ce pas?
Vous connaissez Abidjan, vous vivez Abidjan, vous...
Vous pouvez me tout dire concernant Abidjan. Vous êtes même Abidjan. Vous êtes... Si je veux connaître Abidjan, je dois vous parler, je dois vous connaître.
Amen.
Si je vous connais, je connais peut-être Abidjan. N'est-ce pas? Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Alors, un frère amène Saül voir cet homme de Dieu. Je connais un homme de Dieu. Viens voir. Alors, les frères peuvent nous ramener au Seigneur. Ne sous-estimez jamais les frères, les autres frères, les autres sœurs. La communion à l'attachement à un frère. C'est quoi? Attacher son âne
à la vie.
Son meilleur, son âne au meilleur cercle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pratiquement s'attacher à un frère pour jouir de Jésus-Christ.
Amen.
Pour être ensemble pour poursuivre le Seigneur. N'abandonnez jamais les frères.
Amen.
N'est-ce pas? Non, les frères sont là pour nous ramener à Christ.
Amen.
Donc, n'est-ce pas? C'était Simon, André, n'est-ce pas? Qui a Seigneur l'a appelé, n'est-ce pas? Et puis il est rentré à son. Il a parlé avec son frère. Viens voir.
Il n'a pas expliqué, il n'a pas. Mais il a dit tout simplement viens voir.
Et ça, c'est la première clé.
Amen.
Soyons avec les frères.
Amen.
Soyons
avec les serviteurs de Dieu, avec même les hommes de Dieu. Ne pensez pas que vous pouvez faire quelque chose pour Dieu vous-même. Vous avez besoin des frères.
Amen.
N'est-ce pas? Vous avez besoin des frères qui sont plus âgés. Ils sont là. Vous avez besoin des frères pour vous ramener à Christ.
Amen.
Donc, Saül, écoute la voix, n'est-ce pas? Il écoute son serviteur. Et ils avancent, n'est-ce pas, vers la ville. Et quand ils arrivent à la ville, ils rencontrent de jeunes filles, n'est-ce pas? À la sortie, pour puiser, qui étaient là pour puiser de l'eau. Et les jeunes filles, intéressant, les jeunes filles savent tout ce que Samuel ferait. Ils connaissent, elles connaissent le rêve de Samuel. Elles savent à quelle heure Samuel va arriver. Il va manger, il va prier, il va donner la bénédiction. On ne peut pas manger sans qu'il arrive, n'est-ce pas? Et elles savent que Samuel viendra tôt, bientôt. Alors, elles disent à Saül et à son serviteur de se presser, n'est-ce pas? Donc, ces jeunes filles, c'est quoi? C'est les sœurs dans la vie de l'Église qui aiment le Seigneur simplement, avec pureté, purement. Elles savent que c'est bien d'être avec les frères, d'être avec les hommes de Dieu, d'être avec Samuel. Elles savent, elles connaissent tout l'horaire de Samuel. Donc, ça veut dire qu'elles s'intéressaient à Samuel.
Amen.
Elles s'intéressaient à ce qu'il allait faire, à ce qu'il faisait. Elles étaient familières. Elles avaient l'habitude. Elles étaient là. Et ça, c'est une caractéristique des sœurs. Les sœurs sont très simples. Hein. Elles aiment le Seigneur. Et sans complications. Les frères sont plus compliqués. Les frères sont compliqués. Saül est un peu compliqué. Bon, peut-être que nous pensons, il était un bon. Il a, parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux serviteurs, on ne peut pas voir l'homme de Dieu sans un cadeau. Ok. Ça c'est bon, n'est-ce pas? Donc, apporter un cadeau, n'est-ce pas? On ne peut pas les critiquer. Mais, du point de vue de la simplicité de chercher quelqu'un, dans ce cas Samuel, n'est-ce pas? Les jeunes filles étaient très simples. Ah, allez voir, allez, dépêchez-vous. Ne perdez pas de temps. Saül, bon, il se souciait du cadeau. Physiquement, c'est une bonne chose. Il ne faut pas aller, n'est-ce pas? C'est une vertu. Mais c'est cette vertu, même cette bonne vertu, qui peut frustrer. Plus tard, n'est-ce pas? Même ce caractère bon de Saül, éventuellement, l'empêcherait de connaître le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apporter des cadeaux. Alors, non, c'est... Mais, comprenez-moi bien, Saül avait toute son... Saül était juste, un homme bon, un homme diligent, un homme bien élevé, même avec un souci pour son père, parce qu'il s'inquiétait que son père s'inquiète de lui, n'est-ce pas? Donc, tout était bon. On ne peut pas critiquer Saül, parce que, humainement parlant, on ne peut rien trouver de mal. Mais, vous voyez, la manière dont les sœurs, les jeunes filles, elles avaient cette liberté de diriger Samuel, Saül, de dire à Saül, vas-y, dépêche-toi, tu vas le trouver, n'est-ce pas? Il va manger, il va venir, tu le trouveras là. Venir à Christ, venir sans contrainte, n'est-ce pas? Sans empêchement, d'une certaine façon, venir courageusement, tel que vous êtes.
Amen.
Tel que vous êtes au Seigneur. Sans même se soucier de votre bonté.
Amen.
De comment est-ce que je vais venir au Seigneur? Qu'est-ce que je dois apporter au Seigneur? Je dois apporter un cadeau? N'est-ce pas? Je dois faire quelque chose. Humainement parlant, nous apprécions. N'est-ce pas? Alors c'est difficile de le critiquer. Mais parfois, nous venons au Seigneur comme ça. Comment est-ce que je peux venir au Seigneur sans quelque chose, sans un cadeau? On ne peut pas aller à l'homme de Dieu sans un cadeau. il faut apporter quelque chose. Mais le Seigneur veut que nous venions à lui tel que nous sommes.
Amen.
Tel que je suis. C'est ça, la première rencontre de Saül, n'est-ce pas, avec Saül. Donc, Saül fait tout ce qu'il fait est bon et juste. Et c'est ça le dilemme avec Saül. On ne peut pas le critiquer. On ne le critique pas. Parce qu'on ne peut pas. Ce n'est pas un homme méchant. Si c'était un homme méchant, on pourrait le critiquer, n'est-ce pas? Mais, comme David, on ne peut pas. Mais, le principe, c'est que Dieu nous amène, veut nous ramener à lui-même, à la présence de Christ tel que nous sommes. Attacher notre ânesse à la vie. Rester, nous reposer dans le Seigneur. Rester avec le Seigneur. Cesser de chercher nos ânesses. De porter nos charges. De porter nos cadeaux. Quoique tout ça soit bon, cessons de porter nos cadeaux au Seigneur, mais de venir au Seigneur tel que nous sommes. Ouvrons-nous au Seigneur. Seigneur, me voilà. Je veux vraiment te connaître. Je veux savoir qui tu es. Donc, Samuel, n'est-ce pas, était là. Il était là. Et il a eu un entretien avec Saül. Il a invité Saül à manger avec lui, même, n'est-ce pas, avec les 30 ans, environ 30 ans, n'est-ce pas, à table. Peut-être les anciens, ceux de la ville, les anciens de la ville, n'est-ce pas, pour manger, et même lui a donné la meilleure portion. Alors, Saül était avec Samuel, dans sa présence, et à ce moment-là, n'est-ce pas, Samuel révèle un peu à Saül ce qui va se passer. Plus tard, il va lui dire. Mais pour le moment, Saül est avec Samuel. Ça, c'est quelle opportunité de connaître le Seigneur.
Amen.
Être avec Samuel. Alors, Saül n'avait pas d'excuse. Il a bien commencé. Et si j'étais Saül, bon, pourquoi est-ce que Saül n'a pas demandé à Samuel, Samuel, dites-moi, comment est-ce que je peux connaître l'Éternel comme toi, tu le connais? Je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas quelle était la communion entre Samuel et Saül. Enfin, toute la communion, n'est-ce pas? De quoi ont-ils parlé? Mais pourquoi est-ce que Saül n'a pas demandé? Pourquoi est-ce qu'il avait là l'opportunité d'être avec Samuel? Dis-moi, raconte-moi, déborde. Dis-moi comment Dieu t'a appelé. Comment était cette expérience? Moi aussi, je veux avoir cette expérience. Vous voyez, parfois nous pensons que Saül était injustement traité. Était traité injustement. Il avait dit, même presque comme un, en anglais on dit, un setup. Il a été, Dieu l'a élevé pour le déposer. D'abord, le peuple voulait un roi et Dieu ne voulait pas parce que le peuple rejetait Dieu. Alors Dieu leur a donné un roi, n'est-ce pas, pour satisfaire à leur volonté.
En voilà un. Vous le voulez? Le voilà. Pour leur montrer, regardez ce que vous vouliez. Maintenant, vous l'avez.
Dieu est souverain. Donc, il savait.
Oui, mais Saül, comme nous, nous avons maintes opportunités de connaître le Seigneur. Même le fait que vous soyez ici, n'est-ce pas? Même un jour avec les frères et les sœurs, Dieu vous a ramené ici. Un serviteur vous a invité, n'est-ce pas? Un serviteur vous a invité à venir, un frère, une sœur vous a invité à venir rencontrer des hommes de Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes tous des hommes de Dieu. Avec Dieu, nous voulons le Seigneur, nous aimons le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on vous a invité? Pour connaître Jésus-Christ. Amen. Personnellement.
Amen.
Ça, c'est ça. Aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est comme si on cherchait cette adresse. Vous cherchez quelque chose, Dieu vous ramène au frère, à l'assemblée, au rassemblement, pour le connaître. Pour passer du temps avec les frères, pour voir la réalité de Jésus-Christ.
Amen.
Qui est Christ, n'est-ce pas? Qui est cette personne? Qui est ce Dieu que nous adorons? Qui est ce Dieu que nous louons? Tout le monde loue, beaucoup de gens louent Dieu. C'est l'habitude, surtout en Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai observé. Non, peut-être que vous... Mais par rapport au Canada, aux États-Unis, on ne veut pas Dieu comme ici. Je vous dis, avec le, n'est-ce pas, la louange à côté, au Canada, aux États-Unis, on ne pourrait pas coexister comme ça. Non. C'est-à-dire que le bruit, n'est-ce pas, un groupe se plaindrait contre les autorités pour dire que c'est trop fort et c'est trop bruyant, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas comme ici? Ici, on est libre, on loue le Seigneur et on ne se plaint pas. C'est normal. Moi, pour moi, c'est très bon. D'une part, je souhaite qu'on puisse louer ensemble, n'est-ce pas? Oui, mais j'adore le Seigneur du fait qu'il y a des frères et des sœurs qui louent le Seigneur. Mais aux États-Unis, au Canada, oui, il y a des bâtiments où on, n'est-ce pas, on adore, mais la louange, l'adoration est différente ici, est vraiment libérée. C'est normal. C'est même l'habitude, bien qu'il y a des gens qui nous parlent, sûrement. Donc, on est dans une ambiance, n'est-ce pas, de louer, comme Saül. Il était avec Samuel, mangeant à table avec 30 hommes, n'est-ce pas, avec le prophète, l'ambiance était bonne. Les louanges étaient là. La meilleure portion était là. N'est-ce pas? Comme nous, nous avons la meilleure portion. Christ, comme notre portion. Tout est là. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ça? Est-ce que nous disons, ah, je loue le Seigneur, et puis je rentre chez moi? Et où est-ce que je veux vraiment connaître, savoir qui est cette personne que je loue? Qui est cette personne que les autres frères connaissent, qui louent, qui chantent des chansons pour donner leur vie au Seigneur? Mais qui est cette personne? Trop souvent, nous nous contentons de louer le Seigneur, de rentrer chez nous, et c'est fini. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que le dimanche prochain, si je viens, si je viens. Mais il se peut que ça soit, oui. Est-ce que vous serez satisfait avec ça? Ou est-ce que vous serez... Vous voulez vraiment connaître la personne qui est ici, la personne qui a changé la vie des gens, la personne à qui beaucoup se sont donnés, se sont abandonnés. Est-ce que vous voulez vraiment connaître cette personne? Voilà l'opportunité. N'est-ce pas? Saül avait cette opportunité. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Qu'est-ce que nous faisons avec ça? Ne sous-estimez aucun, ne méprisez aucun rassemblement. Parce que c'est un... Chaque rassemblement, c'est un festin. Là, une table à manger. Une table dans le chapitre 9. N'est-ce pas? 30 ans. Nous sommes à peu près 32. Bon. Des gens, n'est-ce pas, autour d'une table pour jouir, pour louer, pour connaître quelqu'un qui est leur vie. Qui est cette personne? Est-ce que nous voulons le connaître? Ou est-ce que nous serons satisfaits, n'est-ce pas, de chanter, d'écouter de la bonne, des bons chants, de la bonne musique, un bon message, et puis rentrer et oublier? Est-ce que nous voulons vraiment connaître le Seigneur? Ça, c'est le pardon. Amen. Donc, Saül, n'est-ce pas, il a commencé avec cette ambiance. Dieu a tout arrangé pour le mettre en route avec ceux qui pourraient l'aider à connaître l'Éternel. Est-ce que nous voulons connaître l'Éternel? Amen. Ok, je m'arrête.